Débat, BBC Afrique, Africa Radio, présenté par Liliane Niacha et Francis Laloupeau. Le débat.
Je suis particulièrement heureuse d'être avec vous pour cette nouvelle édition du débat BBC Afrique, Africa Radio. Eh bien, parce que Francis Laloupeau est de retour. Bonjour à tous, bonjour Francis Laloupeau.
Bonjour Liliane Niacha, très heureux de vous retrouver également, très très heureux de retrouver évidemment tous nos auditeurs et auditrices. C'est un retour que j'apprécie particulièrement Liliane, puisque vous avez tenu la maison avec un talent exceptionnel, comme d'habitude.
Merci beaucoup Francis. Mais je tiens à dire que les auditeurs m'ont chargé de déballer vos bagages avec vous.
Oui.
Donc n'ouvrez aucune valise sans ma présence.
Tout est en place.
Je ne fais que suivre les ordres, monsieur.
Je m'incline et je m'y soumets.
Merci beaucoup. La réconciliation au Burkina Faso est-elle en péril avec la condamnation lundi à 20 et à 10 ans de prison, respectivement des généraux Gilbert Ndiendéré et de Dibril Bassolé? Les deux hommes présentés comme très proches du président déchu Blaise Compaoré étaient jugés pour leur rôle dans le putsch contre le régime de transition alors dirigé par Michel Kafando. Les membres du commando qui avaient arrêté et séquestré les dites autorités ont écopé, eux, de 15 à 19 ans de prison. Quelle réponse les autorités sud-africaines vont-elles apporter aux mesures de rétorsion décidées par certains pays africains face à une énième vague de violences xénophobes en Afrique du Sud, d'Abuja à Kinshasa, en passant par Antananarivo? La colère est montée tant chez les officiels que les populations contre les attaques d'étrangers et de leur commerce dans certaines villes du pays arc-en-ciel. Ce ras-le-bol perceptible va-t-il être le déclic à une véritable prise en compte de ce fléau par Pretoria? Analyse dans cette émission. Faut-il rester serein ou redouter les tensions lors de la présidentielle anticipée du 15 septembre prochain en Tunisie? La détention de Nabil Karoui, qui avait été présenté par certains sondages comme l'un des favoris, suscite un vif débat dans le pays et fait craindre des troubles. Ses avocats affirment d'ailleurs qu'il n'aurait pas d'audience avant le 15 septembre, date de fin des vacances judiciaires, mais aussi jour du scrutin. Francis, à vous pour le plateau.
Oui, il y a notre grand témoin invité dans cette édition au téléphone depuis Ouagadougou, Maître Benewende Sankara, président de l'Union pour la Renaissance, parti sankariste, premier vice-président du Parlement burkinabé. Maître Benewende Sankara, bonjour.
Bonjour Francis, bonjour à tous les auditeurs.
Merci d'être avec nous. Avec nous également un confrère invité. Il est en studio avec vous, Liliane, à Dakar. Charles Faye, journaliste, chroniqueur au groupe Futur Média. Charles Faye, bonsoir, bonjour.
Bonjour Francis et bonjour aussi à Liliane et à tous vos auditeurs.
Merci d'être avec nous. Petite fiche de présentation comme de coutume de notre grand témoin invité, Benewende Sankara. Vous êtes né le 23 février 1959, avocat de formation. Vous avez été membre du comité de défense de la révolution, le CDR, entre 1984 et 1986. Pendant la présidence de Thomas Sankara, vous avez fondé votre parti, l'Union pour la Renaissance, mouvement sankariste, en novembre 2000. Vous serez alors l'un des trois député de ce parti, élu à l'Assemblée nationale en 2002, avant d'être élu aussi député du Parlement panafricain. En juin 2005, vous décidez de démissionner aussi bien de l'Assemblée nationale burkinabé que du Parlement panafricain pour vous consacrer à la campagne présidentielle à l'issue de cette élection présidentielle du 13 novembre 2005. Vous arrivez en deuxième position sur 13 candidats présents au premier tour avec 4,88% des suffrages derrière Blaise Compaoré. En novembre 2010, vous êtes de nouveau candidat à la présidentielle. Vous arrivez cette fois en troisième position avec 6,34% des voix derrière Blaise Compaoré et Ama Arba Diallo, toujours à la tête de votre parti, l'Union pour la Renaissance, Mouvement Sankari, l'UNIR MS. Vous avez été du 19 août au 8 septembre 2017 président par intérim de l'Assemblée nationale, dont vous êtes actuellement le premier vice-président. Benewende Sankara, vous serez donc notre grand témoin dans cette édition du débat BBC Afrique, Africa Radio. Merci d'avoir accepté notre invitation. Liliane, avec vous, le Burkina Faso, tout de suite, cap sur Ouaga pour parler de ce procès dont le verdict était très attendu.
Oui, Francis, et vous l'avez dit, un verdict diversement accueilli par les parties impliquées dans le procès du coup d'État manqué de 2015 au Burkina Faso. On le rappelle, le général Gilbert Ndiendéré a pris 20 ans de prison. Le général Dibril Bassolé a lui écopé de 10 ans de détention. Plus de détails dans ce sujet envoyé lundi par Simon Gongo, correspondant de BBC Afrique à Ouagadougou.
Le tribunal a reconnu l'ancien chef d'État-major particulier de Blaise Compaoré coupable d'attentats à la sûreté de l'État, de meurtres, de causes de blessures et incitations, à commettre des actes contraires à la discipline et au règlement militaire. La trahison a été retenue contre le général Djibril Bassolé alors qu'il était poursuivi pour 3 chefs d'accusation. Leurs décorations ont été retirées. Maître Maria Barry, avocate du général Bassolé, ne comprend pas.
Pour notre part, il n'y a pas de trahison. Puisque la trahison, c'est de porter des armes contre un État. Et comme tout le monde le sait, M. Bassolé n'a jamais porté d'armes contre l'État du Burkina Faso.
Maître Mathieu Sommet, conseil du général Dinguiri, estime que les preuves sur lesquelles le tribunal s'est appuyé pour prendre la décision ont été obtenues de façon frauduleuse. Pour les avocats de la partie civile, le droit a été dit. Maître Prosper Farman indique que l'essentiel était la tenue du procès.
Et ce que nous espérons, c'est que ce procès soit le glas sonné pour tous ceux qui pensent qu'on peut accéder par la force au pouvoir au Burkina Faso, surtout en assassinat.
Une dizaine d'accusés ont été acquittés pour infraction non constituée ou au bénéfice du doute. Les peines vont d'un an de prison à 20 ans de prison ferme. Simon Gongo, BBC Afrique, Ouagadougou.
Voilà, Maître Bene Wende Sankara, si je me trompe, corrigez-moi, on le sait, vous faites partie du camp des accusateurs, c'est bien cela?
Non, je ne suis pas parti à ce procès.
Je sais, mais je dis, vous étiez plutôt favorable à un procès de Gilbert Diendieré et de Djibril Bassolé pour... Voilà, donc, c'est peut-être exagéré de le dire, mais vous étiez plutôt donc favorable à ce procès.
Oui, pour la simple raison que je fais partie, comme d'ailleurs la grande majorité de notre peuple, à tous ceux-là qui ont résisté contre le coup d'État qui a été perpétré contre une démocratie naissante au lendemain d'une insurrection populaire. Le monde entier s'en souvient. Et nous étions d'ailleurs en train de battre campagne pour les élections de 2015 quand cette tentative a eu lieu.
Contre les autorités de transition.
Mais oui, tout à fait.
Je voulais juste faire cette précision pour que ce soit très clair pour les auditeurs, qu'ils sachent que quand vous prendrez position, vous n'êtes pas tout à fait neutre dans ce dossier. Mais en tant qu'avocat, voilà, c'est important de le préciser. Mais en tant qu'avocat, Maître Bene Wende Sankara, quelles sont les questions que l'on se pose ou l'on peut se poser au bout d'un tel procès si long, 19 mois, et dont les principaux accusés sont tout de même de hauts responsables de l'armée?
Oui, d'abord, en tant qu'avocat, il faut tout de suite saluer le procès équitable parce qu'il y a eu toutes les garanties de la défense. Vous avez également remarqué que ce procès a tenu pendant 18 mois tout simplement parce que on a eu affaire à un tribunal, même si on dit tribunal militaire, qui a essayé de respecter les standards internationaux en matière de procès équitable et de garantie des droits de la défense. Il y a eu des avocats étrangers qui sont venus, qui se sont constitués pour défendre leurs clients de façon libre. Et chacun a eu la parole autant que cela se pouvait. Le juge, il a été vraiment patient. Il a été d'une sérénité extraordinaire et je pense que l'épilogue a été le verdict qui a été rendu. Un verdict ne met jamais tout le monde d'accord parce que vous avez au moins deux parties, ceux qui se défendent, ceux qui sont accusés. Et quand il y a effectivement condamnation, le condamné ne peut pas être content. Mais il faut souligner qu'il y a eu aussi des acquittements. Il y a eu des condamnations, mais il y a eu aussi des acquittements. Donc, nous, aujourd'hui, au Burkina Faso, on se félicite d'abord de la tenue du procès qui est éminemment pédagogique parce que un coup d'État en Afrique, depuis les années 1991, nous pensions qu'on avait renoué définitivement avec l'État de droit qui doit se renforcer, qui doit avoir un ancrage institutionnel pour amorcer le développement de nos États. Malheureusement, cette tentative a échoué du fait de la volonté de notre peuple. Donc, en tant qu'avocat, je pense que la tenue même du procès est un succès.
Merci.
Maître Bene Wende Sankara, quel peut être l'impact de ce verdict sur la situation politique dans votre pays? Une situation politique plutôt tendue en ce moment avec la crise sécuritaire, sur fond de crise sécuritaire plutôt. Est-ce que vous pensez que ce verdict pourrait compliquer ou plutôt faciliter ce qu'on appelle désormais, en toute façon, le processus de réconciliation politique?
Je dois d'abord souligner que le Burkina Faso ouvre l'ère de plusieurs types de procès. Il y a ce procès-là qui est contre le coup d'État, le putsch qu'on attribue au général Gilbert Dengueré, mais il y aura d'autres. Par exemple, il y a ce qu'on appelle le procès contre le gouvernement de Luc Adolphe Diao. Là, c'est devant la Haute Cour de justice.
Le dernier, dernier gouvernement de l'ancien président.
Oui, le dernier gouvernement qui a eu à prendre, bien sûr, le décret malheureux qui a entraîné les conséquences, notamment l'Assemblée nationale qui a consumé dans les flammes. Il y a des mises en accusation du ministre, de dignitaires. Ce dossier est déjà sur le bureau de l'Assemblée nationale. Donc, je dois dire que depuis l'insurrection, depuis donc 4 ans, sinon presque 5 ans, il y a plusieurs types de procès. Et celui-là, ce procès est une première dans la 4e République, en ce sens que depuis les tribunaux populaires de la Révolution qu'on a vu sur Thomas Sankara, c'est vraiment un procès qui a été suivi de bout en bout par l'opinion, par la presse. Et je précise que nous avons même revu la législation au Burkina Faso pour permettre désormais la couverture médiatique de certains procès.
Quel impact sur le climat politique, Benin Wende Sankara?
Oui, j'explique pour dire que l'impact justement de ces procès, c'est d'abord au niveau de nos populations que les gens comprennent que la justice est vraiment au cœur, au centre de la démocratie. Et l'impunité, la lutte contre l'impunité est véritablement engagée. C'est un combat qui est engagé, mais il faut d'abord commencer par la lutte pour la démocratie.
Alors ça, c'est la version optimiste, positive. Parce que vous n'ignorez pas que certains continuent à dénoncer un procès politique, un règlement de compte politique. Parlant de ce procès-là, celui-là précisément.
Oui, M. Laloupou, n'ayons pas peur des mots. Moi, je dis que c'est pas parce qu'il est procès politique qu'il n'est pas un procès contre des infractions parce qu'ils ont été poursuivis sur la base du code pénal. Mais il est politique ce procès en ce sens que les auteurs qui ont été, les accusés, ceux qui ont été poursuivis, justement, avaient un manteau de politicien parce qu'ils voulaient justement gérer le pouvoir d'État en s'attaquant justement aux institutions régulières de l'État. Je vous donne un exemple. L'un des avocats du général Dengueré soutient qu'il n'y avait pas de constitution. Il n'a même pas lu le premier paragraphe de la charte qui a permis à la transition de pouvoir se mener en réitérant que cette charte, qui était le fruit d'un consensus de notre peuple, approuvé par l'ONU, par la CEDEAO et bien sûr par tous les acteurs, toutes les forces vives du Burkina Faso avaient force, donc, constitutionnelle. Ça, c'est d'un. De deux, je pense qu'aujourd'hui, l'argument qui consiste à dire que ce procès vise uniquement à diviser le Burkina Faso, c'est archi-faux. C'est vrai, il y a des hommes qui sont même des hommes politiques qui ont été poursuivis et condamnés, mais pour des faits que notre code pénal condamne. Et c'est à ce titre-là qu'ils sont perçus, et je parle là comme un avocat, comme étant des délinquants ayant enfreint à une loi pénale. Donc le procès, il est politique du fait, bien sûr, des acteurs, mais il reste un procès classique du fait... des incriminations.
Maître, je vais peut-être poser la question autrement, celle que Francis vous a posée tout à l'heure. Alors, certains appelaient clairement à une justice transitionnelle, c'est-à-dire à une réconciliation nationale sans justice. Ce verdict, d'après vous, est-il à accélérer ou va-t-il aider à accélérer la réconciliation ou plutôt à la retarder, voire la freiner dans un contexte sécuritaire qu'on s'est marqué par des attaques terroristes récurrentes et que certains attribuent d'ailleurs aux mécontents de l'ex-régime?
D'accord. Je dois vous dire tout à l'heure que le processus de la réconciliation a commencé et est en marche. le chef de l'État, Monsieur Roch Marc-Christian Kabore, a déjà inauguré le dialogue politique avec toute la classe politique.
Oui, mais quel impact peut avoir ce verdict sur ce processus, même s'il a déjà commencé, comme vous le dites, en mars?
Oui, j'en arrive. Ensuite, ce dialogue sera également ouvert à d'autres, par exemple, à la société civile. C'est pour vous dire qu'au Burkina Faso, il y a un principe fondamental cartésien de nos plus hautes autorités qui est le triptyque vérité, justice, réconciliation. C'est un socle sur lequel on ne négocie pas, même pas avec les terroristes.
Donc, maintenant qu'il y a eu ce verdict, il y aura réconciliation. Il y aura une démarche de réconciliation. Certains parlent même d'une possible grâce du président Roch Marc-Christian Kabore, d'une possible grâce de M. Ndiendiéré, des généraux Ndiendiéré et Bassolé.
Non, mais il ne faut rien écarter dans la balance de la réconciliation. Mais je veux dire qu'on ne peut pas passer, on ne peut pas outrepasser la vérité, la justice pour aller à la réconciliation. C'est pourquoi d'ailleurs, nous avons insisté pour dire qu'il fallait d'abord que ce procès ait lieu, qu'on situe les responsabilités, le droit de grâce revient au chef de l'État. Si ça doit être effectivement un élément qui va jouer, un élément déterminant dans la réconciliation des Burkinabés, de notre peuple avec son histoire, eh bien, le chef de l'État, je suis sûr, ne s'en privera pas.
Maître Benemene Sankara, il y avait un grand absent lors de ce procès, Blaise Compaoré, dont l'ombre a plané tout au long de ces audiences. Pour les parties civiles, précisément, nul doute que l'ancien président était impliqué dans le putsch. D'ailleurs, Maître Hervé Kam, avocat des parties civiles, l'a dit. Est-ce qu'on peut dire, de ce point de vue, que ce procès laisse un goût d'inachevé?
Ce n'est pas vraiment mon point de vue parce que c'est vrai, l'ex-président Blaise Compaoré a fui comme Fatou Diendéré, tous ceux-là qui ont été poursuivis.
Fatou Diendéré qui a été condamné à 30 ans,
à 30 ans.
L'épouse du général Diendéré,
par contumace, avec d'autres. Oui, mais je veux dire que dans cette procédure, je n'ai pas vu des charges qui ont pesé sur Blaise Compaoré. À ma connaissance, il n'a pas été poursuivi, mais il est poursuivi par ailleurs. Donc, en ce qui concerne le dossier du coup d'État, du putsch, je ne pense pas que Blaise Compaoré ait été poursuivi. En tout cas, au niveau de l'institution, je n'ai pas vu son nom. Je n'ai pas entendu.
La question était de savoir à qui profitait au fond ce putsch raté, je crois.
C'est de la spéculation encore. Mais moi, je veux rester objectif et me fier vraiment aux faits tels que je les ai vus et entendus.
Francis parlait de Blaise Compaoré, mais le même Guy Hervé Kam, qui est l'avocat des parties civiles, estimait que la condamnation du général Bassolé est de fait aussi celle de Guillaume Soro, l'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, qu'on soupçonnait aussi, dont le nom avait été cité. Quel est votre commentaire rapide dessus?
Tout à fait, c'est dans les écoutes téléphoniques que le nom de Guillaume Soro a circulé, mais n'a pas été constitué. Je n'ai pas tous les éléments à ma possession, mais la condition établie au Burkina Faso était que Guillaume Soro, effectivement, est rentré en contact avec les putschistes et le Burkina ne comprend pas pourquoi Guillaume Soro n'a pas été poursuivi. Ça, en tout cas, c'est resté en travers. Et jusqu'aujourd'hui, les Burkinabés se posent des questions.
Merci.
Voilà pourquoi, quelque part, on dit que le procès, quand même, a connu des insuffisances. Bon, il y a certainement des non-dits que nous ne connaissons pas, mais on se félicite déjà des condamnations qu'il y a eu.
Merci.
Le débat BBC Afrique, Africa Radio, présenté par Liliane Niacha et Francis Laloupo. Le débat.
Suite du débat BBC Afrique, Africa Radio, notre grand témoin invité dans cette édition au téléphone depuis Ouagadougou, Maître Bene Wende Sankara, président de l'Union pour la Renaissance Parti Sankariste, premier vice-président du Parlement, Burkinabé, notre confrère invité en studio à Dakar, Charles Fay, journaliste chroniqueur au groupe Futur Média, que nous allons écouter à présent. Premier commentaire, Charles Fay, sur ce verdict qui était très attendu, ce procès aussi très attendu.
Mes premiers commentaires pour dire peut-être que d'abord honneur à, quand même au Burkina Faso d'avoir répondu, d'avoir su répondre de ce point de vue par rapport à un procès que tout le monde suivait dans, en Afrique de l'Ouest, hein, pour parler d'économie communale que nous avons, commune ensemble. Maintenant, du point de vue local, il y a quand même des avancées assez significatives parce que le président avait quand même dans sa campagne électorale suffisamment parlé de justice et de ce point de vue, la justice a su répondre présent, même si on pourrait peut-être indiquer un certain nombre de situations insuffisantes, de certaines insuffisances. De l'autre côté aussi, il y a eu la presse.
C'est ce que l'invité reconnaissait, en quelque sorte. C'est ce que l'invité reconnaissait aussi, en quelque sorte, avant la pause, qu'il y avait quand même un goût d'inachevé.
Est-ce que vous partagez l'opinion de Maître Evekam, avocat des partis civils, qui lui dit que, voilà, que ce procès confirme l'indépendance de la justice. Il dit que la justice a fonctionné, les temps ont changé. Est-ce que vous pensez comme lui qu'on assiste à un tournant en matière d'indépendance de la justice au Burkina Faso ?
Mais je serais heureux en tout cas que ça soit le cas, je le pense vraiment, et que ça vienne du Burkina Faso, des hommes intègres, ce qui n'est pas très surprenant, mais c'est très bien pour nous autres, parce que n'oublions pas quand même que jusqu'à une date récente en Afrique, les dignitaires, les hauts dignitaires n'allaient pas en prison, et c'est un vent de changement qui est peut-être en train de souffler et qui viendrait du Burkina Faso. De ce point de vue, je suis très heureux de voir cela. Maintenant, sur l'autre question que pose, en tout cas la remarque que fait Maître, je pense qu'effectivement effectivement, quand un général se retrouve être à la tête quand même d'un comité mis en place par les putschistes au lendemain d'un coup d'État, ou quelques heures après un coup d'État quand même raté, je veux dire, ça ne peut pas se faire comme ça, avec quand même un autre général ministre des Affaires étrangères qui aurait pu avoir la bénédiction venue d'ailleurs. Donc de ce point de vue, je pense qu'effectivement, nous ne sommes pas allés jusqu'au bout, mais n'oublions pas que c'est une nation aussi, qu'il y a d'autres nations et qu'en Afrique, on gère autrement les choses.
Oui, alors je voudrais demander peut-être à Maître Benny Wendy Sankara, comment entrevoyez-vous la suite puisque les accusés ont fait appel?
Oui, moi je crois que c'est un cheminement normal du procès, à savoir également il y a des voies de recours qui existent et il faut bien sûr les utiliser au maximum. Seulement quand il y a des voies de recours, le chef de l'État n'était pas obligé de son droit de grâce, il faut attendre que la justice, en tout cas, son boulot, comme on le dit, en toute impartialité, en toute indépendance. Donc, pour moi, on suivra le procès en appel, et je reste convaincu que le droit sera dit. Il y aura la même sérénité, en tout cas, en bas d'appel.
Oui, Maître Sankara, je veux qu'on revienne un instant sur la peine qui a été infligée à Fatoumata Diendéré, l'épouse de Djibril Diendéré, qui lui a été condamné à 20 ans de prison, et son épouse Fatoumata Diendéré a écopé, elle, de 30 ans de prison. Est-ce que vous avez été surpris par cette sanction à l'encontre de Madame Diendéré? Que lui reprochait-on précisément au point de la condamner plus lourdement que son époux?
Parce qu'elle a été condamnée par contumace, elle a fui, j'allais dire, pas seulement le pays, mais le procès. Elle avait toute l'attitude pour comparaître, se défendre, elle n'a pas voulu. Moi, je pense que, par principe, c'est ça aussi la contumace, c'est-à-dire aller avec la peine la plus lourde pour justement décourager toute vérité de tentative de se soustraire à la justice.
Était-elle une actrice centrale de ce coup d'État raté?
Je pense que les charges qui ont été portées contre elle sont suffisamment graves. Et je pense qu'au même titre que son mari, elle devait en tout cas encourir les mêmes peines, aggravées du fait, bien sûr, de la contumace, parce qu'elle a essayé de se soustraire à la justice de son pays.
Maître, on observe aussi que les membres du commando qui ont procédé à l'arrestation et à la séquestration des membres du gouvernement de transition ont écopé de 15 à 19 ans de prison. Est-ce que cela ne peut pas donner l'impression que ceux qui parlent de procès politique ont réellement raison? C'est-à-dire le procès politique concernant les généraux Diendéré et Bassolé.
Oui, moi je pense que ceux qui ont tenté cette arrestation devraient vraiment encourir des peines maximales. Parce
beaucoup
que
plus lourdes que celles infligées aux généraux.
Plus lourdes.
Mais justement, le fait qu'ils aient été condamnés à ces peines-là, est-ce que cela ne peut pas laisser penser qu'en fait, en ouvrant ce procès, on visait les deux généraux qui ont été condamnés?
Pas forcément les deux généraux. On visait les auteurs, les co-auteurs, les complices et même les commanditaires. C'est-à-dire, l'instruction était très large. Vous voyez que, je vous disais tantôt qu'il y a même eu des acquittements. Mais au regard des circonstances de l'espèce, c'est-à-dire les juges certainement fait une appréciation des faits et en tirer bien sûr les conséquences. Hein.
Vous parliez d'une appréciation partielle, légère?
Partielle, légère. Bon, je me mets dans la peau d'un avocat. Et
mais c'est vous qui dites que vous pensez que ceux qui ont commis ces actes auraient dû être plus lourdement condamnés que ceux qui n'ont fait en réalité qu'en profiter.
Je me mets simplement à la place d'un justiciable pour dire 10 ans pour le général Bassolé, 20 ans pour le général Diendéré, les exécutants immédiats auraient dû avoir au moins la même peine que Diendéré. Voilà moi mon raisonnement.
La justice a décidé autrement. Maître Sankara, encore une question. Les Burkinabés attendent toujours la tenue de grands procès, hein. On pourrait même parler de procès emblématiques, celui de l'assassinat de Blaise Compaoré et aussi du journaliste Norbert Zongo. Est-ce que ces deux procès vont intervenir bientôt, on dit d'ici la fin de l'année, et puis surtout, est-ce que ces deux procès vont de cette manière fermer définitivement la page de l'ère Compaoré?
Non, pas du tout. Vous faites certainement allusion à l'assassinat du président Thomas Sankara.
Pardon, l'assassinat de Thomas Sankara, quel lapsus terrible.
Oui, j'ai compris. Les auditeurs aussi ont compris.
Qu'il me pardonne. Il est encore bien vivant en Côte d'Ivoire.
Oui, tout à fait. Ce dossier est toujours entre les mains du juge d'instruction au regard des rebondissements multiples qu'on a. Rappelez-vous que la France est en train de respecter ses engagements pour envoyer les pièces qui étaient sous le secret de défense. À ce jour, le juge d'instruction n'a pas encore fini de les compulser. Donc, c'est un dossier qui est toujours, en tout cas, en train d'être instruit. Le dossier Norbert Zongo, c'est aussi un dossier qui aujourd'hui connaît un bon dénouement et une bonne évolution dans sa reprise après donc l'arrêt qui a été rendu par la Cour africaine des droits de l'homme. Et je pense que, en tout cas, ces deux dossiers emblématiques-là vont certainement connaître d'une suite. Mais ce n'est pas des dossiers qui soldent, j'allais dire, les dossiers contentieux de crimes de sang soulève Blaise Compaoré.
Merci.
Il y a par exemple le dossier d'Abo Boukaré, l'étudiant qui a été assassiné, l'étudiant de 7e année de médecine qui a été assassiné. Ce dossier aussi a connu une clôture au niveau du juge d'instruction. Mais il y a d'autres dossiers, comme Oumarou Clément, qui a été le numéro 2 du parti de Blaise Compaoré quand il était sous le Front Populaire, qui a été assassiné. Il y a le juge Nébié, c'est un dossier emblématique. Il y a l'élève Nébié Flavien qui a été tué. Il y en a d'autres comme ça.
Merci.
Plus les crimes économiques.
Merci beaucoup.
Donc tous ces dossiers-là, aujourd'hui, constituent vraiment un pan de notre histoire judiciaire qui devrait venir dans un procès équitable. Une fois de plus, si ces procès sont tenus, pour renforcer la démocratie. Moi, je...
Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
Oui, avec notre grand témoin invité, Bené Wende Sankara, président de l'Union pour la Renaissance, parti sankariste, premier vice-président du Parlement burkinabé, et avec nous également notre confrère Charles Faye, journaliste chroniqueur au groupe Futur Média. On va donc passer au deuxième sujet, c'est bien ce que j'ai compris, avec la musique, Liliane, c'est ça, hein?
Oui, parce que le temps nous presse, Francis Maloufo.
On va parler des violences xénophobes en Afrique du Sud à présent, flambée de violences cette semaine, de violences xénophobes en Afrique du Sud, des étrangers, principalement subsahariens, pris pour cible par des dizaines de Sud-Africains, certains armés de machettes, des commerces saccagés et pillés, des personnes molestées, brûlées et tuées, des scènes qui ont choqué l'opinion africaine et suscité une vague d'indignation à travers le continent. On a signalé de quelques 400 interpellations dans la ville de Johannesburg, hein, qui a été l'épicentre de cette violence, alors que ces mêmes formes de violence se sont déjà produites par le passé, notamment en 2008 et 2015, avec leur lot de victimes. Ces événements ont provoqué cette fois de fortes tensions diplomatiques entre l'Afrique du Sud et les pays d'origine des immigrés agressés. Au Nigeria ou en RD Congo, les missions diplomatiques et des entreprises sud-africaines ont été menacées de représailles par des foules en colère. Question pour vous, Maître Bené Wende Sankara. Voilà donc l'image, hein, que renvoie aujourd'hui l'Afrique du Sud post-apartheid au reste de l'Afrique. Quelle est votre analyse d'abord de cette situation ?
C'est simplement très regrettable et je crois que le président Nelson Mandela va y tourner encore une fois et plusieurs fois dans sa tombe. Quand on connaît déjà l'Afrique du Sud, c'est l'incarnation de la couleur arc-en-ciel, c'est-à-dire le pluralisme. Après l'apartheid, on a vu une Afrique du Sud qui véritablement inspirait aux Africains le goût de la lutte pour la liberté, l'indépendance et la dignité africaine. Et rappelez-vous par exemple que le Parlement panafricain est logé là-bas pour une fois de plus justifier, une fois de plus si besoin en était, de cette idée de Kwame Nkrumah qui a toujours dit que l'Afrique doit unir. Et que pendant que le discours politique appelle à l'unité, à l'intégration des peuples, et cela se répète pas une fois, mais plusieurs fois dans un pays qui est censé incarner cette intégration des peuples, c'est vraiment la désolation. Donc on comprend un peu les réactions dans les autres pays, mais une fois de plus, ce n'est pas en répondant à la violence, par la violence, qu'on va régler le problème. Moi, je pense simplement que les autorités sud-africaines doivent très rapidement se ressaisir, régler le problème à la base et faire en sorte
Quelle est la responsabilité des autorités sud-africaines dans cette situation ?
Moi, je pense que quand on parle de la responsabilité des autorités, c'est parce que les autorités ont toujours en charge les questions de sécurité et de sûreté. C'est-à-dire que tous ceux qui vivent sur le territoire sont sous la protection de l'autorité. Donc, c'est en cela qu'on parle de leur responsabilité. Il peut y avoir des débordements, mais une fois de plus, il faut que les peuples aussi comprennent que partout ailleurs dans le monde, il y a ce qu'on appelle des étrangers. Vous venez au Burkina Faso, vous verrez plusieurs nationalités. Vous partez au Congo, vous allez voir plusieurs nationalités. Vous partez au Cameroun, c'est pareil.
Merci.
Même dans les pays arabes.
Alors Charles Faye, on a vu des réactions très virulentes cette fois des dirigeants africains, peut-être l'expression d'un ras-le-bol. Mais est-ce que ces dirigeants n'ont pas, disons, un peu trop longtemps gardé le silence face à une situation qui n'était pas nouvelle ? C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs fois des violences xénophobes devant lesquelles des responsables africains sont restés silencieux. Est-ce que la coupe n'était pas un peu trop pleine ?
Écoutez, moi je pense que nous ne nous sommes pas posé une seule question, pourquoi les Sud-Africains sont-ils violents ? Je pense que c'est de là qu'il faut partir et qu'il y a deux hommes absolument intelligents d'une intelligence supérieure qui s'appellent Frédéric de Klerk et Nelson Mandela, qui tous les deux avaient compris de quoi étaient capables les Sud-Africains.
Et qui deux ont, prix Nobel et qui deux ont deux présidents
absolument, je pense
qui se sont succédés.
Absolument. Absolument. L'un a entamé les réformes qui va permettre à l'Afrique du Sud de passer de l'État de la République d'Afrique du Sud à la République d'Afrique du Sud et de faire disparaître cet apartheid en laissant le pouvoir à un autre homme qui va appeler au pardon parce qu'il savait, il ne se retourne pas dans sa tombe, il avait justement prévu cela, peut-être qu'il ne l'a pas dit. Alors pourquoi les Sud-Africains sont-ils aussi violents ? Mais écoutez, par exemple, des siècles, d'abord ils ont une expérience qui n'est pas comme la nôtre. C'est vrai que nous avons connu la colonisation, nous avons connu ils étaient une certaine forme d'invasion, mais ils ont connu l'apartheid qui est l'une des expériences les plus douloureuses et ils estiment qu'ils sont les seuls à l'avoir vécu en Afrique. Et qu'est-ce qu'on leur disait à ces Africains, ces Sud-Africains ? Faites attention à ces Noirs qui vont venir de l'Afrique pour vous soutenir, on avait peur, les Blancs avaient justement peur, cette suprématie blanche avait peur de ces Africains qui viendraient du continent, non pas pour envahir, mais peut-être pour prêter main forte à des Noirs, à des Sud-Africains noirs, qui auraient pu les égorger, comme cela se disait à l'époque. Et on a dit à ces mêmes Sud-Africains
noirs. Donc vous dites que c'est le gouvernement raciste préparer les esprits des Noirs Sud-Africains au rejet des autres. On est là dans la psychanalyse, carrément.
C'est ça que je dis. Vous savez, c'est très facile de dénoncer, c'est très facile. Moi, j'aime bien quand le président Macky Sall appelle à l'apaisement. Il faut réfléchir. Ils sont quand même là-bas depuis le XVIIe siècle, 1600 et quelques. Et il y a une déconstruction de l'homme noir qui a été faite en Afrique du Sud.
Si on va dans votre logique, je ne dis pas que vous leur trouvez des excuses, mais aujourd'hui, face à la réaction violente, on l'a vu aussi des autres pays africains, comment faire aujourd'hui ? Quels sont les moyens dont dispose le gouvernement sud-africain pour changer la situation, pour faire en sorte que leurs compatriotes, que les Sud-Africains soient mieux, moins violents, même
question,
si vous dites que
Liliane,
c'est historique.
En demandant à Charles Faye, justement, vous avez évoqué des raisons historiques, mais si on s'en tient à l'actualité, est-ce que l'une des raisons qui pourrait permettre de comprendre cette violence, est-ce que ce n'est pas le fait aussi que l'ANC n'a pas tenu ses promesses vis-à-vis de cette population ?
L'ANC à elle seule ne peut rien faire. Il faut aller bien au-delà. Aujourd'hui, la réponse sud-africaine à ces questions...
L'ANC qui est au pouvoir.
Elle est économique. Et c'est justement un problème économique. L'Afrique du Sud, c'est...
La réponse aux attaques racistes,
et économique.
L'égalité raciale et meilleure répartition de richesses.
Vous savez, j'ai eu la chance d'aller en Afrique du Sud. Je me suis rendu compte dans pas mal de pays dans lesquels on se rend pour aller demander des visas. C'est l'un des pays les plus difficiles d'accès pour tout Africain. Et pourquoi ? C'est aussi compliqué que pour le Royaume-Uni, que les États-Unis. C'est beaucoup de paparazzi.
Justement, Francis demandait, c'est quoi la réponse ?
Alors, la réponse aujourd'hui, c'est que justement, on se retrouve avec une Afrique du Sud qui a des problèmes internes, qui a des problèmes économiques. On a vu comment Zuma a raté des rendez-vous économiques. On a vu comment l'exportation, les Africains, les Sud-Africains qui ont pensé pendant longtemps qu'ils étaient séparés du reste du continent et qu'ils pouvaient venir chez nous avec les produits sud-africains, ils se rendent compte qu'aujourd'hui, que ce n'est pas tellement le cas, que nous sommes dans une concurrence économique qui est très 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 forte. Et ils se rendent compte que les Africains qui viennent là-bas, que l'on faisait passer peut-être pour des gens inférieurs, comme on l'a toujours dit,
et
paresseux, sont des Africains très, 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 très compétitif.
Voilà. Excusez-moi, Francis, je pose des questions et vous passez la parole, mais quand on vous écoute Charles Faye faire l'analyse de ces tensions, le sentiment c'est qu'après la colère, ça va passer et on va retomber dans de nouvelles violences xénophobes.
Je suis convaincu qu'il faut réinitialiser le programme sud-africain. Il faut réinitialiser le sud-africain, qu'il soit noir comme blanc, il n'aime pas l'étranger. Parce que c'est d'abord un problème interne et on doit les aider. Je pense que l'Afrique du Sud est à aider. Mais tout simplement en leur faisant comprendre, un, qu'ils sont africains, qu'ils font partie du continent, que ça ne peut pas se passer sans le reste de l'Afrique, qu'ils ont besoin des étrangers, que les étrangers ne sont pas voulus.
Ça passe par l'éducation.
Ça passe exactement par l'éducation. Je disais tout à l'heure que...
Ça va être très long.
Mais bien sûr que ça va être très long. Ils ont 6 siècles de domination. Vous pensez que ça va s'effacer en 20 ans ? C'est pas possible.
Francis, avec notre invité, ou bien je peux prendre la main ? Francis ?
Oui, alors allez-y.
Oui, c'était juste demander à Maître Bene Wende Sankara. Je parlais tout à l'heure des réactions à Kinshasa, Antananarivo, à Lubumbashi, au Nigeria... Est-ce que vous pensez que cette forte colère exprimée et ouvertement par ces dirigeants africains, est-ce que ça va peut-être être le déclic pour que les autorités sud-africaines prennent enfin ce problème à bras-le-corps et en faire une véritable priorité ?
Oui, j'ai dit tout à l'heure qu'il ne faut pas répondre à la violence quand la violence, mais il faudrait une réaction ferme, dans la sérénité et dans la proportion, j'allais dire, qu'il mérite que de tels actes ne puissent plus jamais intervenir, pas seulement en Afrique du Sud, mais partout ailleurs en Afrique. Je pense que les condamnations qui ont été émises ça et là, qui sont des condamnations politiques, doivent, de mon point de vue, aujourd'hui, influer sur les institutions communautaires que nous avons, comme l'Union africaine, comme
la
CEDEAO, oui, tout à fait, à se saisir immédiatement de cette question, parce que c'est en réalité la goutte d'eau qui a fait déborder le gaz. Et si on y prend garde, il peut avoir un effet d'entraînement suffisamment dangereux et très grave pour l'Afrique qui a déjà des problèmes sécuritaires.
Justement, Maître Sankara, parce qu'on observe quand même une grande amertume au sein de l'opinion africaine aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas craindre un contentieux durable entre certaines populations africaines et l'Afrique du Sud au cours des prochaines années, avec ces affaires-là?
Oui, c'est pourquoi moi je pense qu'il faut solder les comptes, mais pas dans une diplomatie politicienne pour faire de la mascarade. Il faut crever l'abcès. J'ai aimé par exemple ce que notre ami du Sénégal vient de dire.
Charles Faye.
Oui. Il parle de... Il faut réinitialiser toute une société. Mais voyez-vous ce qui vient de se passer en Côte d'Ivoire, à Abidjan, à la suite du décès de Arafat. Suivez un peu ce qui se passe au Maroc, et un peu partout. Mais l'Afrique ne connaissait pas des actes aussi obscènes que ce qu'on constate aujourd'hui. Donc, c'est vraiment une question qui est posée même au pouvoir public et politique.
Merci.
Moi, je pense que ce qui vient de se passer en Afrique du Sud, alors même que l'Afrique du Sud était perçue comme un modèle, ça déçoit, ça décourage et ça interpelle.
Merci. Francis, avant d'aller au dernier sujet rapidement, sans transition, vraiment une question rapide à la réponse rapide. Certains pensaient qu'il faut envisager au niveau de l'Union africaine des sanctions ou au niveau sirogénal, la SADC, des sanctions contre l'Afrique du Sud pour les réveiller et les pousser à prendre ce problème sérieusement.
Je ne vois aucune sanction. Je suis contre ces sanctions. Ça ne servait à rien du tout.
Elles seraient contre-productives.
Il faut aider l'Afrique du Sud. Il faut aider les Sud-Africains à devenir des Africains.
Merci. Francis, notre dernier sujet, c'est la Tunisie. Et nous allons partir à Tunis, donc sans transition. Une semaine après le début officiel de la campagne électorale pour la présidentielle anticipée du 15 septembre prochain, l'ambiance est plutôt timide. La correspondante de BBC Afrique sur place affirme que les Tunisiens semblent avoir la tête ailleurs. L'économie est en panne et le chômage dépasse les 15%. Aucun des 26 candidats en lice n'a tenu de grand meeting pour l'instant. Et la semaine prochaine, place au débat entre candidats. Et peut-être là, on verra que la campagne électorale atteindra sa vitesse de croisière et peut-être certains concurrents se démarqueront. Je commence avec vous, Maître Bene Wende Sankara, très rapidement. 26 candidats retenus sur plus de 60 au départ, presque 70.
Dans un expliquer... en prison, il faut le préciser.
Voilà, tout à fait. Le mania des médias, on va parler de son cas tout à l'heure. Comment expliquer, Maître, que malgré qu'il y ait autant de défis à relever pour le pays, il y ait aussi de nombreux Tunisiens qui aspirent à diriger le pays? Autrement dit, les défis à relever ne devraient-ils pas être un motif de découragement, de dissuasion pour les candidats?
Malheureusement, la Tunisie n'est pas le seul exemple à la matière. Seulement, je veux dire que depuis 2011, la Tunisie avait donné un signal très fort avec ce qu'on a vu de la révolution maghrébine. Cette contagion a pris un peu l'Afrique de l'Ouest et on espérait que la jeunesse africaine, enfin, avait pris ses responsabilités pour alternative pour aller vers, un progrès véritable de l'Afrique. Malheureusement, c'est comme s'il y a eu une espèce de récupération systématique. On est retombé dans les mêmes politiques.
Excusez-moi, maître, on n'a pas beaucoup de temps pour revenir à la révolution. Est-ce qu'on peut s'attarder uniquement sur l'élection, compte tenu du temps qui nous est imparti? Est-ce que pour vous, le fait d'avoir beaucoup de candidats, comment vous analysez cela alors que les problèmes de la Tunisie sont nombreux? Il y a quand même beaucoup qui veulent devenir chef d'État, président.
Oui, avoir beaucoup de candidats, ce n'est pas si, c'est pas grave d'une véritable démocratie. Pour moi, la multiplicité des candidatures dénote d'abord l'égoïsme, l'individualisme, le tout pour moi, et cela sclérose la société. On voit de grandes démocraties où souvent les candidats véritablement ne dépassent pas 4, 5 et on se porte mieux. Donc, c'est pas la peine qu'on aille dans des groupuscules. Mon pays de Burkina Faso n'est pas épargné à cela. Nous en avons vu depuis presque deux
décennies
ce que ça donnait.
Merci.
Donc, le peuple a la tête ailleurs. C'est ce que je voulais dire. La jeunesse tunisienne aujourd'hui est confrontée au chômage. Il y a la paupérisation qui gagne le terrain. Et on parle d'inflation. Il faut plutôt des politiques capables d'inverser la tendance, d'apporter le progrès au lieu d'une tyrienne d'hommes et de femmes qui veulent purement et simplement pour leurs propres honneurs le pouvoir.
Merci.
Ça ne sert absolument à rien. Et il faut
Francis.
Que ça change à partir de la base, à partir de nos peuples.
Charles Faye, depuis 2012, on présente la Tunisie comme une exception démocratique dans le monde arabe. Est-ce que vous pensez que cette élection va confirmer l'ancrage démocratique en Tunisie, d'autant qu'on dit que, voilà, que c'est la première fois que les Tunisiens n'ont aucune idée de qui va être président parmi ces 26 candidats. Quel est, selon vous, l'état clinique de cette démocratie aujourd'hui ?
Mais je dirais que c'est un bébé démocratique. C'est quoi ? C'est depuis 2012 à aujourd'hui, c'est 7 ans. C'est rien du tout dans la vie d'une démocratie, dans la vie démocratique. Je pense qu'au contraire, nous allons assister à ce que, d'ailleurs, la multiplicité des candidats renvoie quand même à une certaine lecture assez claire de la situation. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a de grands enjeux, de grands défis. Quand on sait que vous avez, par exemple, 11 chaînes de télévision, 40 radios, 200 journaux, une cinquantaine de sites internet, vous voyez ce que ça va donner si, quand on sait que des hommes politiques sont derrière sont propriétaires comme des hommes d'affaires.
Oui,
on va
vers une notamment démocratie. Francis parlait du Kanabi Karoui qui était présenté comme mania des médias, homme d'affaires, qui était présenté comme l'un des favoris dans un sondage avant le lancement de la campagne officielle. Est-ce que sa détention pourrait avoir une incidence sur le déroulement du processus?
Mais bien sûr.
Puisqu'il va à campagne de la prison.
Mais bien sûr, puisqu'il est envoyé en prison en août dernier seulement pour des affaires fiscales.
Bon, d'argent.
Au blanchiment d'argent, c'est très facile, mais bien sûr que ça va peser.
C'est une accusation, il est présumé innocent.
Hein. Innocent, tout à fait.
Oui, mais bon, vous savez, vous envoyez un candidat aussi important à 2 mois de la présidence, à 1 mois en prison, en prison, c'est assez clair. Je veux dire, maintenant, si les gens veulent croire à autre chose, ça, c'est leur affaire. Non, je pense que c'est un élément assez essentiel. Il y a aussi de la dame Moussi, sait-on jamais, avec peut-être le mouvement au niveau des femmes, peut-être aussi qu'on peut assister à une véritable révolution féminine.
L'ancien président Moncef Marzouki aussi n'est pas...
Oui, mais bon, je pense qu'aujourd'hui, là, entre cette nouvelle démocratie, les femmes qui sont très fortes, c'est, n'oublions pas, 7 millions de votants, d'électeurs autant pour moi, peut-être la moitié des femmes, on peut se retrouver avec quelques belles surprises en Tunisie.
Oui, ou l'inverse. Maître Benoumédi Sankara, il ne vous a pas échappé qu'en ce moment on assiste à une forme de défiance dans certains pays vis-à-vis des acquis démocratiques qui sont de plus en plus fragilisés. Est-ce que cette jeune démocratie tunisienne échappe, je dirais, à cette fragilisation des acquis démocratiques ?
Oh, pas du tout. C'est ce que j'ai tenté d'expliquer. Parce que la démocratie de façade, c'est quoi ? C'est justement le pluralisme qu'on observe, la liberté de la presse qu'on observe, mais il y a derrière tout ça le chômage qui frappe les couches les plus vulnérables.
C'est ça.
Vous avez, bien sûr, l'inflation qui est galopante, et on a l'impression qu'on utilise le pouvoir pour protéger les intérêts économiques de certains clans. Mmh. Là, franchement, c'est un échec. Donc, de ce point de vue, moi, je pense qu'il faut effectivement aider à consolider les démocraties alternatives qui permettent un développement endogène à la base. Et si la Tunisie, justement par le jeu démocratique, peut avoir des hommes et des femmes qui vont justement travailler dans l'intérêt des populations, eh bien, nous allons tous applaudir et prendre exemple.
Merci. Vous nous direz dans une autre édition, on vous invitera ce que c'est qu'une démocratie alternative. Mais on va écouter tout de suite les messages de nos internautes recueillis et livrés par Didier Ladislas Lando, tout de suite.
Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter @débat_bbcafrica et sur notre page Facebook facebook.com/débat_bbcafrica.
Bonjour Liliane, bonjour à tous, bonjour et bienvenue à Francis, j'espère que les vacances ont été belles. Voici quelques réactions d'internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. Burkina Faso, archiduc Théodore de N'Djamena estime que la condamnation des généraux Diendéré et Bassolé ne met pas en péril la réconciliation. Bien au contraire, la vraie réconciliation ne peut se faire sans la justice. Mais Olivier Mariki lui estime que la justice doit revoir sa copie car la présence de ces deux généraux en prison est une sérieuse menace sur la paix et la stabilité du Burkina Faso. De son côté, Lamine Ouédraogo se demande pourquoi les condamner tout en sachant qu'ils seront graciés par le président de la République le 31 décembre. Pour lui, le mieux serait d'indemniser les parents des victimes et les victimes encore vivantes. Afrique du Sud, Tidiane Botegueba estime qu'en s'attaquant aux étrangers, les Sud-Africains ont trahi Mandela et son combat pour la liberté et l'égalité. Notre internaute de Douala se demande comment des gens qui ont connu la ségrégation raciale peuvent agir ainsi à leur tour à l'encontre de leurs frères noirs. Didos Didier Afodo lui déplore la timidité de la réaction des autorités sud-africaines et se demande si ces derniers sont vraiment préoccupés par la situation. Tunisie, Barma Vincent estime que les présidentielles tunisiennes s'annoncent très mal et si la communauté internationale ne prend pas ses dispositions pour suivre de près, la Tunisie connaîtra des vives tensions. Merci à Jules Bagaram, Mamadou Lamaranba et Anachik Abdelwakil qui nous ont rejoints cette semaine. Merci de continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux à l'adresse facebook.com/le débat BBC Afrique-Africa Radio et sur Twitter à @débat BBC Africa. Et d'ici là, bon week-end à tous.
Bon week-end à vous Didier Ladislas Lando, merci beaucoup. Il nous reste juste le temps de remercier nos invités. Nous étions en compagnie de Maître Bene Wende Sankara, président de l'Union pour la Renaissance Parti Sankariste, premier vice-président du Parlement burkinabé. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, cher maître. Merci à notre confrère Charles Fay, qui était dans l'institut de BBC Afrique à Dakar, journaliste chroniqueur au groupe Futur Média. L'émission a été réalisée à Dakar par Abdou Diop, régie technique assurée ici à Paris par Hugo Vallière. J'arrive de production, Didier Ladislas Lando. Vous pouvez bien sûr écouter cette émission en podcast sur nos sites respectifs africaradio.com et bbcafrique.com. Bon week-end à toutes et à tous et à la semaine prochaine, Liane.
Bien sûr, Francis, et je prends la route tout de suite pour découvrir le contenu des valises de l'ex-vacancier Francis Naloupou. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.
Au revoir.